En ce jour, chers amis auditeurs, nous vous invitons à méditer toujours sur la passion de notre Seigneur à travers l'émission proposée par Jacques Damian et que nous retrouvons avec beaucoup d'émotion mais toujours avec autant d'intérêt. Ce sera donc l'évocation de la passion du Christ à travers le linceul de Turin.
En ce jour, je voudrais vous présenter des images de la passion du Sauveur, tout particulièrement des images des souffrances physiques qu'il a endurées dans les heures, dans les moments qui ont précédé sa mort. Ces images, en parfait parallèle avec les écrits évangéliques, nous sont suggérées comme visualisées par un document concret. Ce document, c'est le linceul de Turin, le Saint-Suaire, vénéré dans tout le monde catholique comme une relique sacrée. Faisons tout d'abord un bref rappel de l'aspect du Saint-Suaire qui a fait l'objet d'avril à juin 1998 d'une ostension, c'est-à-dire d'une exposition publique prestigieuse. Il est fait d'un tissu très fin, très souple, tissé très serré. Son tissage est de mode dit à chevron, mode qui remonte au premier siècle de notre ère et même bien au-delà. Il est fait de lin, avec quelques traces de coton. Ceci en pleine conformité avec la loi mosaïque, interdisant tout mélange de fibres animales et de fibres végétales pour les linceuls. Ses dimensions sont de 4,36 m de long sur 1,11 m de large. Il est certain que ce linceul a contenu un cadavre. L'on voit des traces de sang, qui selon les examens correspondent au groupe AB, et ces deux axes, ces deux grandes taches sombres, sont celles d'une silhouette de corps humain, vue de face et vue de dos, l'une et l'autre silhouette étant opposées par le sommet de la tête. Ces taches présentent les caractéristiques apparentes d'un négatif photographique, c'est-à-dire que ce qui devrait apparaître foncé est en réalité clair, et ce qui devrait être clair est foncé. Depuis l'invention de la photographie à la fin du XIXe siècle, il a été possible de reconstituer l'image du supplicié qui fut enveloppé dans ce suaire. Cette image est celle d'un homme au visage majestueux, d'une grande beauté, imprégné de paix et d'amour. Sa stature est d'environ 1,78 m. Son âge peut être situé entre 30 et 35 ans. Son poids pouvait être d'environ 80 kilos. C'est l'image d'un homme bien bâti, musclé, habitué aux efforts physiques, aux travaux et à la marche. Mais il en ressort aussi les caractéristiques suivantes. Il s'agit d'un homme qui a été flagellé, d'un homme couronné d'épines, d'un supplicié qui a porté un très lourd objet sur ses épaules. Un supplicié qui est tombé brutalement sur ses genoux, qui est mort après avoir été mis en croix à l'aide de clous. Un crucifié qui, après la mort, a eu le côté droit percé d'un coup de lance romaine, correspondant au type de cette arme romaine des premiers siècles de notre ère. Il ne s'agit pas ici, ce n'est pas l'objet de notre émission, d'évoquer les divers débats scientifiques qui, sur divers points, ont alimenté notamment une succession de symposiums scientifiques. Nous dirons seulement que les discussions indiscutables de toutes les investigations faites depuis plusieurs décennies et plus récemment avec les moyens scientifiques les plus modernes amènent à des conclusions indiscutables impressionnantes dans leur précision et leur concordance. Elles aboutissent à la quasi-certitude, disons à la certitude scientifique quasi-absolue, de l'authenticité du Saint-Suaire, en ce sens qu'il ne peut pas avoir été fait de main d'homme, que par ailleurs il remonte au premier temps de l'ère chrétienne, et qu'enfin il est en parfaite conformité à tous égards avec l'ensemble des données historiques et scientifiques. Le pape lui-même, qui s'est longuement agenouillé le 24 mai 1998 devant le Saint-Suaire, a prononcé à son sujet les paroles suivantes. Le Suaire est provocation à l'intelligence. La fascination mystérieuse qu'il exerce pousse à formuler des questions sur le rapport entre ce lin sacré et la réalité historique de Jésus. Ne s'agissant pas d'une donnée de foi, l'Église n'a pas compétence pour se prononcer sur de telles questions. Elle confie aux scientifiques la tâche de continuer les recherches afin de parvenir à trouver des réponses aux interrogations suscitées par ce linceul qui aurait enveloppé le corps de notre Rédempteur. L'Église invite à mener l'étude sans idée préconçue. Elle invite à agir avec liberté intérieure et dans le respect attentif tant de la méthode scientifique que de la sensibilité des croyants. Le Suaire est miroir de l'Évangile. L'image présente un si profond rapport avec ce que les Évangiles disent de la passion et de la mort de Jésus que tout homme sensible se sent intérieurement touché et ému en le contemplant. L'empreinte du corps martyrisé du crucifié, témoignant de la terrible capacité de l'homme à infliger la douleur et la mort à ses semblables, se pose comme une icône de la souffrance et de l'innocent de tous les temps, des innombrables tragédies qui ont marqué l'histoire et des drames qui continuent de se consumer dans le monde. Le Suaire, c'est l'image d'impuissance. Nous sommes tous émus à la pensée que le Fils de Dieu a tellement participé à notre condition humaine qu'il a voulu se soumettre à l'impuissance totale du moment où la vie s'éteint. Le Suaire est l'image du silence. Le Suaire est aussi image de l'amour de Dieu ainsi que du péché de l'homme. Devant lui, les croyants ne peuvent que s'exclamer en toute vérité « Seigneur, tu ne pouvais pas m'aimer davantage » et se rendre compte aussitôt que le responsable de cette souffrance, c'est le péché. Avant de chercher à visualiser à travers les images que nous présentent les empreintes du linceul et les écrits évangéliques eux-mêmes, il est pour le moins saisissant de se référer à un point particulier. Deux savants américains se sont attachés à calculer, il y a quelques années, le pourcentage de probabilité selon lequel on peut affirmer qu'il s'agit bien là de l'image du Christ. Ils ont utilisé pour cela, le procédé dit de la similitude à partir des anomalies et caractéristiques très particulières, visibles, décelables, en les comparant aux anomalies, aux caractéristiques très particulières qui ont entouré la passion du Christ. Ces savants aboutissent à la conclusion qu'il y a une probabilité sur 80 millions que l'image du linceul de Turin ne soit pas celle du Christ. Et ces conclusions, dans leur violence arithmétique et statistique, nous introduit peu à peu dans la description des épisodes de la Passion de Christ. Voici les conclusions de ces savants. Primo, il s'agit d'un crucifié qui a été préalablement flagellé. Or, les deux savants analystes estiment qu'on peut évaluer à une probabilité sur deux cette circonstance, car on ne flagellait pas systématiquement tout condamné au supplice de la croix. Secondo, le fait que l'image du sanctuaire présente un supplicié couronné d'épines est quelque chose de tout à fait insolite. En fait, on ne connaît pas d'autres crucifiés qui aient été couronnés d'épines. Les savants ont donc avancé sur ce point un pourcentage de probabilité de 1 sur 500. Mais ce chiffre, car il faut bien un chiffre pour les calculs statistiques, ce chiffre est forcément arbitraire et il pourrait être bien supérieur à ce pourcentage. Tertio, le fait que le supplicié ait été cloué sur la croix et non pas attaché avec des cordes relève d'un cas de probabilité de 1 sur 2. Quarto, le fait que les jambes du crucifié du sanctuaire n'aient pas été brisées correspond au moins à une probabilité de 1 sur 3, car la plupart du temps on brisait les os des condamnés. C'était en définitive le coup de grâce qui provoquait l'asphyxie définitive en raison de l'affaissement du corps qui n'avait plus la possibilité de prendre appui sur les jambes pour se soulever un peu afin de retrouver la respiration. Cinquièmement, un coup de lance a été donné dans le flanc droit du Christ, non pas un coup d'épée, ni un coup de lance en vue vers une autre partie du corps. Les chercheurs affectent à cela un pourcentage minimum de probabilité de 1 sur 30. Mais ceci reste très approximatif. Sixièmement, le crucifié a été enseveli dans un linceul neuf et de très belle qualité. Là aussi, les probabilités sont très faibles, car la plupart des condamnés étaient des brigands, des personnes méprisables qui ordinairement étaient vouées à la fosse commune. Septièmement, de même, contrairement au cas habituel, l'ensevelissement a été opéré à la hâte, car le corps du crucifié a été enseveli sans avoir été préalablement lavé. Huitièmement, on peut enfin évaluer un faible pourcentage de l'ordre de 1 sur 10. Le pourcentage de probabilité tenant au fait qu'il n'y a aucune trace de décomposition de cadavre dans le linceul, ce qui établit que le supplicié a disparu du linceul très peu de temps après y avoir été enveloppé. Finalement, tout compte fait, une chance sur 80 millions que le supplicié du sanctuaire ne soit pas le Christ dont la passion est décrite dans les écrits évangéliques. On peut donc considérer comme une certitude mathématique quasi absolue que cette double image sur le linceul de Turin est bien l'image de Jésus, le Christ, notre Sauveur. À présent, après cette première approche, allons plus avant, en cherchant à visualiser la passion du Seigneur, en rapprochant les images du linceul de celles qui sont suggérées par les récits évangéliques. Dès lors, nous pourrons peut-être encore mieux comprendre ce que fut la passion, le sacrifice unique dans toute l'histoire de l'humanité, du Fils de Dieu acceptant librement le don total de lui-même par amour, dans l'abaissement le plus complet, le martyr, le supplice ultime par amour. Le Sauveur avait dit de lui-même, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et c'est par ce don que notre Seigneur a permis à tous les hommes, à toutes les femmes de tous les temps, aussi grave soit leur état de pécheur, d'avoir accès à la miséricorde du Père Tout-Puissant, tout amour. À la lumière des évangiles et des empreintes du linceul de Turin, nous pouvons plus intensément nous représenter la passion de ce vendredi en la veille du sabbat. Le texte évangélique dit « Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. » Sur l'image du linceul, nous voyons 120 marques de coups de fouet, comme de petites taches groupées deux par deux. L'on distingue aussi des stries. Ces stries sont les coupures mêmes de la peau provoquées par les lanières du fouet. Quant aux taches, elles correspondent aux arrachements de peau, aux blessures faites par le choc des petites billes de plomb ou des osselets qui terminaient les lanières de cuir. Le fouet romain, le flagrum, est en effet constitué de lanières comportant leur extrémité de petites billes de plomb ou des osselets. Et la flagellation à la romaine est différente de celle permise par la loi juive. Cette dernière interdisait que soit dépassé le chiffre de 39 coups, car on savait, telle était la brutalité de la flagellation en elle-même, qui était un supplice très violent, donc on savait qu'au-delà de ce chiffre de 39, la mort pouvait à tout moment survenir. Par contre, la flagellation à la romaine était sans limite du nombre de coups. Les bourreaux ne s'arrêtait que lorsque la victime, profondément déchirée tout ensanglantée, était quasiment dans un état inanimé. Or, le flagrum dont le Christ a été battu laisse supposer qu'il a reçu environ 60 coups de fouet à double lanière, peut-être davantage. Et du fait de sa robustesse physique, Jésus n'en est pas mort, mais il aurait pu en mourir. En outre, on voit sur le linceul une longue trace de sang autour de la ceinture. Ce fut, semble-t-il, l'endroit où fut limée la peau par la chaîne ou par la corde dont on se servit pour tenir Jésus attaché à une colonne pendant la flagellation. Le texte évangélique dit encore « Crachant sur lui, ils prirent un roseau et ils l'en frappèrent au visage. » Sur l'image du linceul, le visage, on le voit bien, a reçu des coups violents. Le nez a été cassé, écrasé. Un œil a été enfoncé. Le texte dit aussi qu'après l'avoir dévêtu, ils lui mirent, pour évoquer par dérision la pourpre royale, ils lui mirent un manteau, une chlamyde écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la lui enfoncèrent sur la tête avec un roseau dans sa main droite, disent les Écritures. On distingue nettement sur le linceul des marques de déchirure sur la peau sous les coups reçus et les traces de sang sur le front, les tempes et le sommet de la tête. Ces marques sont disposées en forme de couronne fortement enfoncée. Ce sont en fait celles d'un véritable casque d'épines. Et un anneau de jonc, tout autour de la tête, a servi à retenir les épines, sans doute les longues épines de jujubier que l'on trouve toujours en Palestine. Et cet anneau de jonc a laissé une marque circulaire, sanglante, bien apparente, sur le front. Avant le portement de croix, Jésus a subi aussi d'autres outrages, les injures, les moqueries, la nudité. Puis, nous dit encore le texte évangélique, ils le conduisirent dehors pour le crucifier. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Mais ce n'est que chemin faisant, le supplicié étant exténué, que Simon de Cyrène fut requis pour l'aider à porter la croix. Le linceul permet de voir les épaules durement meurtries par un objet très lourd, donc par la poutre transversale de la croix, que les Romains appelaient patibulum, et qui pesait de 30 à 50 kilos, alors que la partie verticale de la croix, le stipes, restait planté en permanence sur le lieu de la crucifixion. Le patibulum a donc été chargé sur les deux épaules du condamné, derrière la tête, et maintenu par les bras. Et cette poutre, pas à pas, a rouvert les blessures des coups de fouet qui venaient d'être donnés. Et sur le linceul, on distingue aussi des plaies aux genoux. En effet, il y a eu des chutes brutales au sol qui ont meurtri, qui ont coupé les genoux, surtout le genou gauche. Dans le texte évangélique, l'apôtre Thomas dit « Si je ne vois pas les traces des clous dans ses mains, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, je ne croirai pas. » Le linceul nous représente des plaies à chaque poignet, à la base de chaque main. L'évangile en langue grecque emploie le mot « main ». Mais en langue grecque, ce mot « keir » comprend même le poignet. Comme on ne crucifiait plus au Moyen-Âge, depuis plusieurs siècles déjà, les peintres ont représenté le Christ crucifié avec des plaies dans les paumes. Mais les bourreaux du 1er siècle, comme les chirurgiens du 20e, savaient bien que si l'on enfonce un clou dans la paume d'une main, elle ne pourra retenir le poids d'un corps et la main se déchirera aussitôt. Et les bourreaux du 1er siècle savaient bien que si l'on enfonce un clou dans un passage anatomique du poignet appelé passage de Desto, entre les multiples os du poignet, alors la fixation sera solide. Mais ce passage du clou dans cet espace blesse le nerf médian. Il se produit alors le réflexe immédiat du repliement du pouce. Et c'est bien cela que montre le linceul, le pouce replié. Le linceul fait également ressortir qu'un seul clou à traverser ensemble les deux pieds, mis l'un sur l'autre. Pour cela, il a été nécessaire de faire fléchir une jambe. Et cette flexion de la jambe gauche, un peu différente de celle de la jambe droite, se voit sur le linceul. Le linceul révèle encore ceci, la nudité du supplicié. Et puis son étouffement progressif, révélé par les coulées sanglantes qui viennent des poignets le long des bras et qui partent dans deux directions alternées. Le sang, en effet, a coulé des blessures des poignets vers deux directions différentes par alternance. Ceci en raison des efforts faits par le supplicié afin de retrouver son souffle. Et cela, et pour cela, il s'appuyait pour se soulever sur ses pauvres pieds mutilés, cruellement percés par le clou unique. Certes, le linceul ne peut faire apparaître certaines souffrances physiques du Christ en croix, ni la soif terrible, ni les crampes épouvantablement douloureuses qui saisissent et tordent les pauvres membres du crucifié. Mais le linceul révèle que l'asphyxie a bien été la cause immédiate de la mort, comme cela se produisait nécessairement pour les crucifiés. Et ceci est révélé par le fait de l'abdomen gonflé. Les soldats, nous dit le texte évangélique, virent que Jésus était mort. Alors, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats transperça son côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Le linceul nous montre une plaie faite par une lance, selon le type de lance de l'armée romaine. Et il est évident qu'il s'agit bien d'une plaie faite sur un homme déjà mort, car la plaie est béante, et le sang s'en est écoulé lentement, comme d'une poche, absolument pas sous la pulsion d'un cœur qui bat encore. L'emplacement de cette plaie, telle qu'elle nous est montrée sur le linceul, nous explique que du sang et de l'eau sont effectivement sortis du côté de Jésus. La lance a pénétré en biais par le côté droit, juste au-dessus de la sixième côte, dans le cinquième intervalle costal. Au terme de son trajet ascendant, après avoir traversé la cavité pleurale, la lance a percé le cœur. De la cavité pleurale s'est écoulée l'eau, et du cœur s'est écoulé le sang. Le linceul nous révèle aussi que la tête, dans sa rigidité cadavérique, est restée penchée en avant. De même, selon l'évangile de Jean, Jésus dit « Tout est achevé », puis il baissa la tête et rendit l'âme. Quand nous regardons le linceul, nous voyons que lors de l'ensevelissement du corps, le visage de Jésus a été entouré d'une mentonnière nouée. L'on peut se rendre compte qu'il a été enseveli à la hâte, faute de temps, car le sabbat était sur le point de commencer à la tombée du jour. Oui, enseveli à la hâte, puisque ce corps ensanglanté et meurtri n'a pas été lavé. Tel quel, après la descente de croix, il a été mis au sépulcre dans ce linceul. Les pieds et les mains ont été liées par des bandelettes. Le grand linceul a été rabattu sur le dessus du cadavre, l'autre partie du linceul étant au-dessous et ajustée sur les côtés. Le corps a été enveloppé dans ce linge, puis lié à nouveau par des bandelettes extérieures. Tel est donc ce que montre le linceul. Et c'est bien ce qui correspond tout à fait au mode d'ensevelissement des Juifs à cette époque. Enfin, le linceul fait ressortir qu'il n'y a eu aucune trace de décomposition, de putréfaction. De ce fait, il est sûr que ce corps est resté très peu de temps enserré dans ce linge. Oui, ce corps, ce cadavre, tout ensanglanté, couvert de plaies, déchiré, s'est bientôt séparé du tissu. Il en est sorti sans que ses plaies, pourtant encore fraîches, collées au tissu, surtout les plaies du dos, qui recevaient tout le poids du corps, sans que ces plaies, donc, ne montrent sur le linceul la moindre marque de bavure, la moindre marque de déchirement ou d'arrachement de tissu. Tout cela comme si, on ose à peine le prononcer, comme si le cadavre s'était évadé de son linceul, volatilisé, comme évaporé en un instant. Et tout cela laissant alors sur le linceul une empreinte photographique en négatif, comme sous l'effet de l'irradiation d'un flash puissant. Aurait-il, ce corps, changé de nature? Mystère. Mystère de la croix glorieuse, mystère de l'amour glorieux, mystère profond de l'amour glorifié, vainqueur sur la mort, sur toute mort, physique comme spirituelle. Et les évangiles nous disent encore « Toute porte étant fermée, voici que Jésus vint. Et il se tint au milieu de ses disciples. Et, leur montrant ses mains et son côté, il leur dit « La paix soit avec vous. »